Bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Merci vraiment pour votre accueil, merci pour vraiment ce qu'on peut partager aussi avec le Seigneur, la simplicité de l'Évangile. L'Évangile, j'aime beaucoup parce qu'il est simple, il est direct, il fait du bien, c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas simpliste, mais il est simple et il vient toucher nos cœurs, il vient percuter nos cœurs. Et je sens que cet Évangile de vie, cet Évangile de paix, cette bonne nouvelle est à l'œuvre aussi parmi vous. Donc vraiment, je me réjouis, c'est une découverte pour moi de découvrir votre assemblée, de faire la connaissance aussi des uns et des autres. Et en tout cas, vraiment, merci pour votre cœur qui s'est, et votre accueil qui fait chaud au cœur. Et vraiment, je vous en remercie de tout mon cœur. J'ai des petits papiers. Il paraît que ça aide. Mais donc, comme disait André, je viens après aussi les visites de Luc, de Nicolas, qui sont vraiment des gens vraiment que j'aime beaucoup, des frères qui ont vraiment une grande qualité dans le Seigneur, une qualité d'enseignant, une qualité vraiment de... vraiment d'enseignants et une qualité aussi pour communiquer la parole de Dieu. Et bon, moi je m'inscris un petit peu humblement dans ce mouvement-là et tout ce que j'ai envie de vous communiquer, c'est mon cœur, c'est ce que je suis, c'est pas autre chose. C'est aussi quelque chose un petit peu différent, mais dans une équipe, c'est important que chacun soit aussi différent et complémentaire. Et c'est un petit peu ça. Donc voilà, j'ai des papiers, mais comme je dis au Seigneur, chaque fois que j'arrive devant une assemblée, j'appuie sur le bouton reset. Et je dis Seigneur... efface ce qui n'est pas de toi et que vraiment ce qui est juste, ce qui est vraiment pertinent pour ceux qui sont là soit communiqué. C'est ça qui est important, hein. Et ce matin, c'est ça que j'ai envie de vivre, qu'on a envie de vivre ensemble. Donc que ça soit une parole pleine de sel, pleine de grâce, assaisonnée, qui soit plus assez puissante pour bouger nos vies, pour nous transformer, pour nous amener plus loin aussi dans la présence de Dieu et surtout être réconciliés et être en accord et réalignés avec les pensées de Dieu et ses projets pour nos vies et sur ce qu'il dit de nous. C'est vraiment important. Il y a un combat pour que on connaisse, on sache qui on est vraiment dans le Seigneur. Il y a un combat pour qu'on puisse rentrer dans notre héritage. Ce combat, Jésus l'a remporté. Mais il y a un combat. Et c'est une marche. Et il y a des étapes. Et qu'aujourd'hui, ça soit une étape importante dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous puissions grandir. Alors, je vais peut-être pas prendre par le bon bout, mais j'avais envie de commencer par une blague. Il paraît que ça se fait en ce moment. Tous les orateurs, ils commencent par des blagues. Vous connaissez l'histoire du chauffeur de taxi à Jérusalem qui cherche une place de stationnement? Non, vous connaissez pas? Ah, c'est le pauvre gars, il tourne désespérément avec son taxi pour trouver une place de stationnement à Jérusalem. Il n'y arrive pas, il galère, ça fait une heure qu'il tourne. À la fin, il s'arrête quelque part en double file, il arrête tout, il dit « Seigneur éternel, tu sais que je ne suis pas toujours, comment dire, cachère dans tout ce que je fais, mais je te promets, je te jure que si tu me trouves une place de stationnement, je ferai tout ce que tu me demandes. Je ferai Shabbat, je ferai Kippour, je ferai Pourim, je ferai tout ce que tu veux. Tout, tout, tout. » Et pendant qu'il prie, il ferme les yeux comme ça et sa prière monte vers Dieu comme ça. Et à un moment, il ouvre les yeux et là, devant lui, une place libre. Il lève les yeux vers le ciel et dit « Ah, Seigneur, celle-là, je l'ai vue avant toi. » Celle-là, je l'ai vue avant toi. Jérusalem. J'avais envie qu'on bénisse Jérusalem. Vous n'avez pas envie de bénir Jérusalem aussi? Parmi les sujets de prière, je parlais justement ce matin avec mes hôtes qu'il y a un mouvement qui s'appelle 100 jours de prière pour Israël. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et cette semaine, il y avait un temps spécial pour Jérusalem. Un temps où vraiment on peut prier pour que les guetteurs soient trouvés à leur poste, eux qui doivent hâter et dire « le Seigneur revient à Jérusalem ». Oui, le Seigneur a un plan pour Israël, oui, le Seigneur a des projets d'amour, il n'a pas oublié son peuple, il veut le bénir et il reviendra à Jérusalem. Alors on peut se lever 2 minutes pour bénir Jérusalem? Je crois que quand on fait ça, on est toujours réaligné avec la pensée du Seigneur. Il n'a pas oublié son peuple et vraiment, je vous invite simplement à prier avec moi. Seigneur, Merci parce que tu es vraiment un Dieu de grâce, parce que tu es le Dieu de l'Alliance et ton alliance avec Israël, tu ne l'as pas oubliée. Merci Seigneur parce que ce que tu as dit sur Jérusalem, ce que tu as dit sur Israël s'accomplira. Nous pouvons l'attendre, nous pouvons le souhaiter, nous pouvons prier pour cela. Mais Seigneur, tu reviendras à Jérusalem, poser tes pieds sur cette ville et tous te verront et tous te reconnaîtront. Nous prions, Seigneur, pour le salut de cette ville de Jérusalem. Nous prions, Seigneur, encore, que les guetteurs soient trouvés à leur poste, que les intercesseurs, ceux qui rappellent, Seigneur, cette promesse que tu reviendras à Jérusalem, que tu n'as pas oublié ton peuple d'Israël et qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, eh bien, cette parole s'accomplira. Et nous bénissons, Seigneur, en tant qu'Église, en tant que Français, nous les bénissons au nom de Jésus. Nous bénissons Israël et Jérusalem. Nous bénissons encore tout le peuple juif. Nous bénissons encore. Et nous disons que ta volonté soit faite à Jérusalem. Que ta paix vienne dans cette ville. Que ta grâce, Seigneur, s'y établisse. Que tes pieds, Seigneur, viennent encore fouler, Seigneur, le sol de Jérusalem et la terre de Jérusalem. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais en ce moment parmi les nations. Il y a un tumulte qui monte, mais le Seigneur est triomphant et sa parole est victorieuse. Les nations se liguent, mais toi, Seigneur, tu te lèves et tu fermes la bouche de toute autorité, de toute puissance qui voudrait parler sur Jérusalem injustement. Seuls tes propos sont justes et véritables sur Israël et sur Jérusalem. Amen. Au nom de Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, on reprend le fil. Je remercie beaucoup votre Église de m'avoir invité pour parler sur un thème qui m'est vraiment cher. C'était sur l'Église et sur les œuvres. Avec un thème, c'est comment lier les deux sans compromission. Comme je disais hier, comment peut-on séparer les deux sans compromission? C'est plutôt ça. Mais c'est la réalité et c'est... tout à fait mon cœur, c'est tout à fait ce qui m'anime, c'est de voir effectivement une église triomphante, une église victorieuse, une église qui a un réel impact dans la société à travers des œuvres. Ce n'est pas en restant entre quatre murs que l'église pourra seulement être percutante, pertinente pour la société. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, les prières sont importantes. Oui, je me réjouis de ce que vous avez une maison, ce projet de maison de prière. Et merci Seigneur parce que je sais que c'est une pensée de Dieu qui vous a été donnée. Et je sais que les choses changent quand on prie, quand on se met entre quatre murs là et qu'on cherche la présence de Dieu et qu'on l'adore. Il y a des choses qui sont communiquées et qui peuvent changer. Il y a des prières qui changent le monde. Hein, vous reprenez les actes des apôtres et vous verrez que c'est pas des prières où ils demandent juste « Seigneur, préserve-nous de tout mal, réponds à nos besoins ». Non, ce sont des vraies prières apostoliques, ce sont des prières puissantes qui disent « Mais Seigneur, toi tu as démontré par Jésus-Christ ton oin, ta grandeur et ton royaume, que ton royaume vienne. Pourquoi les nations se ligueraient-elles contre toi? Interviens, Seigneur !» Et les murs tremblaient. Et des milliers de personnes se convertissaient. Donc je crois complètement et totalement à la puissance de ce qui peut se vivre et l'autorité qui est manifestée entre quatre murs au sein de l'Église. Et j'aime ça. Mais je sais aussi que c'est pas suffisant. Si l'Église ne sort pas et si elle ne manifeste pas et incarne pas le royaume de Dieu à travers des œuvres, alors il y a une partie de son mandat qui est inaboutie et qui manque. Et j'aime ça. Hier, je témoignais un petit peu, je racontais mon histoire. J'ai eu une histoire un peu à l'envers de beaucoup de chrétiens. Moi, je me suis converti pratiquement à travers un mouvement, pas un mouvement d'église, un mouvement spontané d'évangélisation. C'était en 1979 à Nice. Oh, ça remonte, oh mon Dieu, ça fait loin. Et j'étais vraiment, est-ce que c'est mes origines corses et siciliennes qui étaient rebelles, mais en tout cas pendant 10 ans j'ai pas fréquenté une église où j'y allais vraiment de loin en loin. Et moi j'avais décidé de faire ma vie avec le Seigneur, je l'avais rencontré, il nous avait vraiment touché et transformé avec, comme je disais, je témoignais hier, on avait été instantanément délivrés de la drogue et je savais qu'est-ce que le Seigneur pouvait faire dans ma vie. Mais j'avais des projets pour ma propre vie. Je savais ce que j'avais, ce que moi j'avais envie de faire. Et pendant une dizaine d'années comme ça, on a papillonné, on est allé où on voulait. Avec mon épouse, mes trois enfants, on est allé donc même émigrer au Canada, tenter notre expérience là-bas et vivre pendant presque 2 ans, jusqu'au jour où le Seigneur nous a dit « Go home », retournez en arrière et puis revenez sur vos pas. Et puis où on a vraiment été percuté par l'Évangile et par le Seigneur qui nous disait « Mais si je suis Seigneur, je ne suis pas Seigneur de tout, je suis Seigneur de rien. » Donc on a... À ce moment-là, on lui a vraiment redonné notre vie en disant « Oui, Seigneur, tu as un projet pour nos vies. » Et il serait peut-être temps d'écouter ce que toi, tu as à dire sur nos vies. On n'avait pas une vie désagréable, hein, on avait beaucoup bougé, on a fait plein de choses. On a été bénis parce que le Seigneur, il est bon avec nous et il nous laisse faire des fois des choses jusqu'au bout, où on se dit « Mais waouh, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que c'est cohérent avec ce que le Seigneur dit, ce qu'il dit dans sa parole. » Et donc au bout de 10 ans, on s'est vraiment retourné vers lui. On a consacré du temps à le connaître. On a fait une formation biblique pendant 6 mois. Et puis le Seigneur nous a demandé d'intégrer une église. On ne l'a pas choisie. Elle s'est présentée comme ça à nous. Et je m'en rappellerai toujours. J'avais fait une prière au Seigneur. J'avais dit « Seigneur, là où je serai, j'irai à l'église la plus proche de mon domicile. » J'ai pas envie de choisir, parce que j'avais tellement soif d'obéir au Seigneur, de connaître sa volonté pour ma vie. J'avais tellement fait des choix par ma propre volonté que j'avais dit, bon, ça suffit quoi. Alors là où tu me trouveras un lieu habitable et un logement, j'irai à l'église la plus proche de mon domicile. Et le Seigneur est bon, puisque je m'en rappelle quand on est arrivé sur Toulouse avec ma famille, on a trouvé une maison qui était à 400 mètres de l'Assemblée chrétienne de Toulouse. Voilà, on était les plus proches. En fait, secrètement, c'était l'église que j'espérais. Parce qu'on les connaissait, on avait des amis qui étaient, on les avait rencontrés déjà, on avait rencontré Fabienne, Didier, ça nous plaisait bien, ça, ils avaient quelque chose qui nous accrochait. Et secrètement, mais on avait dit, Seigneur, on en a marre de choisir par nous-mêmes. L'église, notre lieu d'habitation, ça sera notre église. Et voilà comment l'histoire a commencé, comment l'histoire, la relation avec cette église a débuté. Et comme je disais hier, on était venu juste pour 1 an ou 2, quoi, essayer de connaître, de comprendre un peu ce qu'une vie d'église pouvait nous apporter. Nous qui avions quand même pas mal baroudé, allé à droite à gauche, fait des expériences. Et puis, on était là un peu en touriste. Et je m'en rappelle, peut-être 4-5 mois après, il y avait des groupes de maisons. Et dans un groupe de maisons, on priait les uns pour les autres. Et une sœur qui avait un don prophétique nous voit avec mon épouse et elle prie pour nous. Et elle nous dit, moi, ce que je vois pour vous, je vous vois comme des piliers dans cette église. On lui a ri au nez, malgré tout le respect qu'on devait à nos aînés dans la foi. On lui a dit, oui, c'est ça. Non, non, nous, Toulouse, attends, on n'est pas Toulousains, nous, on est du sud-est, on est de la Corse. On n'a pas envie de quitter une si belle région. Et puis voilà, 23 ans après, nous y sommes toujours. 23 ans après, et nous sommes effectivement devenus des piliers. Pas trop vieux, Seigneur, pas des vieux piliers. Mais des piliers quand même, puisque voilà. Et ça a été le cheminement du Seigneur, ça a été son école. Et on a vraiment, et c'est là où on a découvert, moi j'ai découvert une passion pour l'Église, tout ce que ça peut nous amener, tout ce que ça peut vraiment nous communiquer. Et bien sûr, il y avait besoin de travail dans nos vies, il y avait besoin de formation, il y avait besoin tout simplement de vie. Vivre ensemble, servir ensemble, travailler ensemble. Et c'était formidable parce que cette église, elle était toute jeune aussi à l'époque. Elle avait qu'une quinzaine d'années et c'était le temps de l'établissement aussi. Il n'y avait pas de lieu fixe, il a fallu chercher des lieux, il a fallu investir, il y avait des pas de foi. Mais c'est super génial de faire des choses comme ça. Et j'étais vraiment au bénéfice de tout ce qui a été vécu là. J'adore les départs, les démarrages d'œuvres, les démarrages d'églises, c'est formidable. Les temps d'établissement où on fait tout ensemble, c'est merveilleux. Et vraiment, on a vraiment été au bénéfice de ça. Ma femme, moi-même et mes enfants aussi, puisque mes enfants donc marchent, vraiment connaissent le Seigneur et marchent avec lui. Et c'était vraiment une bénédiction pour nous. Et on en revenait de loin. Donc vraiment, cette passion pour l'église, quoi. L'église locale. Oui, c'est un lieu de ressources, oui, c'est un lieu de guérison, c'est un lieu de vie, oui, c'est un lieu. Et vraiment, au fond de mon cœur, il y avait vraiment de la reconnaissance au Seigneur par rapport à ce qu'il peut faire à travers une église locale. Et quand j'ai compris tout ça, c'est pas tous les jours évident. Il y a plein de choses, il y a plein de défis à relever, mais c'est tellement passionnant et on voit vraiment le Seigneur à l'œuvre. Donc vraiment, j'ai été percuté vraiment par cette idée de l'église et d'autant plus que de réaliser que ce qui est important dans l'église, c'est Christ. C'est bateau de dire ça. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à l'église? Mais c'est une révélation qu'on doit avoir, vraiment. Mais j'aime beaucoup ce passage dans Colossiens qui dit, Colossiens 1, 18, il dit « Il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » J'aime beaucoup. La tête du corps, c'est aussi le chef du corps, le chef de l'église. Quand on réalise ça, que finalement on vient à l'église parce qu'on suit Jésus et parce qu'on suit la tête, waouh, ça évite plein de problèmes. Ça évite plein de questions inutiles. On évite de réfléchir des fois. Non, c'est pas que c'est pas bon de réfléchir. Il est bon de se poser des questions. Mais c'est pas ce que je veux dire. Mais de gamberger un peu, par exemple, sur la forme d'église. Est-ce que cette forme d'église me correspond? Est-ce que c'est vraiment là où je dois être? Est-ce que c'est bon, toutes ces questions-là? Est-ce que cette église est vraiment, vraiment le bon modèle? Est-ce que c'est... Vous savez, des fois, dans nos cœurs, il y a une recherche d'absolu. Enfin, ce n'est pas des fois, c'est que souvent, il y a une recherche d'absolu. On cherche toujours ce qui est, ce qui doit être le top du top, l'église. Quelque part, on se la fabrique dans nos têtes et on se dit « elle doit être comme ça et elle doit ressembler à ça ». En fait, elle doit ressembler à nous, elle doit correspondre à nous, à nos besoins. Mais le Seigneur dit pas ça. Le Seigneur dit que l'Église, c'est un corps et qu'il est la tête. Et que quand on vient à l'Église, eh bien on vient se connecter et on vient vivre un temps avec la tête. Et ça, c'est important. Qu'on ait cette révélation là où on est. Après, que le Seigneur nous conduise. Dans effectivement là où on doit aller, dans l'assemblée où on doit aller, c'est pas le problème, mais que vraiment on réalise que chaque fois Jésus-Christ est la tête du corps et que quand on vient à l'église, on vient pas pour les hommes, on vient pas pour spécialement pour nous-mêmes, nos besoins, même si on en a, mais on vient avant tout pour lui. On vient pour le connaître lui. Et si on vient se mettre sous une tête, on vient se mettre sous une autorité. Et ça puissamment changer ma vie aussi, parce que moi j'avais un problème avec l'autorité. Je sais pas vous. J'étais un enfant très rebelle. C'était un peu dans mes gènes. Et j'avais un problème avec l'autorité. Mais quand on vient à l'église, et quand on vient vivre vraiment cette dimension de relation, de communion dans le corps, et qu'on se place sous la tête, le chef de l'Église qui est Jésus. Alors on se place sous son autorité. Et c'est bon de se placer sous l'autorité de Jésus. Individuellement, hein, c'est un choix. Je choisis l'autorité de Christ dans ma vie. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire et que vous pouvez faire et que l'on doit faire presque pratiquement tous les jours, dans toutes les histoires de nos vies. Je dois me remettre sous cette autorité. Mais ce qui est formidable, c'est que Jésus nous a offert la capacité, ce que nous ne pouvions pas faire par nos propres moyens, en raison et à cause de la croix, il nous a donné ce libre arbitre de pouvoir choisir son autorité jour après jour, de dire oui, tu es la tête du corps, oui, tu es la tête, tu es le chef de ma vie, tu es le chef aussi de l'Église. Et pour moi, ça a été aussi quelque chose qui a transformé aussi ma vie. Quand on se place sous une autorité comme ça, je me suis aperçu que ce n'était pas quelque chose qui limitait ma vie, mais au contraire, qui la rendait beaucoup plus libre, qui la rendait beaucoup plus, avec beaucoup plus de possibilités qu'auparavant. Et ça a été une profonde, profonde révélation oui, pour moi. Voilà, c'était un petit peu comment je vois l'Église, personnellement, et l'Église locale. Et c'est bon quand on parle un petit peu de l'Église, des œuvres aussi, de resituer aussi l'Église, de se dire mais qu'est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est juste un groupe de confessants, de personnes qui sont d'accord sur le fait que Jésus est la tête du corps et le chef? il y a une réflexion sur ce qu'est l'Église aujourd'hui encore. C'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste un lieu où on se réunit deux ou trois fois par semaine, c'est bien plus que ça. Et quand Jésus a parlé d'Église, il a employé des mots qui étaient vraiment, vraiment pertinents pour l'époque et qui sont toujours pertinents aujourd'hui. Et juste un petit, j'avais juste envie de superviser, de regarder un petit peu ça avec vous, ce qu'est l'Église. Parce que comprendre l'Église, ça peut nous aider à comprendre aussi quel modèle d'Église. Qu'est-ce qui est pertinent au jour d'aujourd'hui de vivre comme modèle d'Église? Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de modèle absolu, il n'y a pas de modèle parfait. Si il y a quelque chose qui est parfait, c'est quand Christ règne sur toute chose, c'est son royaume pleinement restauré. Mais pour l'instant, sur cette terre, il y a quelque chose qui est en évolution. Alors, je vais peut-être vous choquer en disant ça. Et pourtant, quand on regarde un peu l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on constate. L'Église, pour nous, vous savez, les mots signifient certaines choses. Au jour d'aujourd'hui, l'Église, pour nous, quand on entend « Église », on voit, on imagine certaines choses. Mais à l'époque de Jésus, quand il parlait d'Église, quand il cite le mot « Église », ça voulait dire que c'était un autre contexte. Il ne voyait pas cette salle ici, une salle dans la ville, dans un quartier. C'était pas ça. Le mot qui était employé, c'est, vous le savez, je pense que vous avez eu Luc qui est venu. Donc, c'était le mot « ecclésia ». Et le mot « ecclésia », donc, en grec, signifie, et vous en a parlé, hein, c'était ce lieu d'autorité, de gouvernement sur la ville qui était aux portes de la ville. Et c'était l'assemblée des anciens, l'assemblée donc de toutes les autorités de la ville qui décidaient, qui prenaient les décisions pour la ville. Un lieu de gouvernement et d'autorité. Et quand Jésus parle d'Église, la plupart du temps, c'est ce mot « ecclésia » qu'il reprend, ce lieu de gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on prendrait le même mot? Je ne sais pas, « ecclésia ». Est-ce que ces lieux existent toujours? Ils ne se situent pas pareil, mais et au même endroit, mais il y a aussi des lieux d'autorité. Donc, différents modèles. Et quand on voit l'évolution de l'Église dans l'histoire de l'Église aussi depuis qu'elle a été elle s'est constituée, on voit aussi différents modèles et ces modèles dépendent beaucoup du lieu, dépendent beaucoup de la culture, dépendent beaucoup des temps et je crois et je suis passionné par le fait que effectivement Dieu a un modèle d'Église pour la France aujourd'hui et que on a à se poser des questions, on a simplement à écouter ce que le Seigneur veut dire à ce sujet-là. Alors, parlons de différents modèles d'église. Quand on prend l'église primitive, par exemple, la première église qui s'est réunie à Jérusalem, elle était tout à fait typique. Moi, des fois, j'entends ici des chrétiens, ça, ici et là, dire « Ouais, c'était l'église primitive, l'église parfaite, c'était super et tout. » Oui, elle avait des dimensions incroyables. Elle avait une dimension de koinonia, c'est aussi un autre mot pour église, une dimension de communion, puisqu'il est dit qu'ils prenaient leur repas ensemble, hein, qu'ils rendaient grâce au Seigneur pour tout, qu'ils allaient ensemble aussi au temple. Il n'y avait pas encore de lieu d'église, comme nous on l'entend, mais ils avaient ça. Et il y avait des conversions par milliers. Et ce modèle a duré pendant un long moment et il était efficace. Et effectivement, c'était un lieu de bénédiction, un lieu de multiplication. C'était un lieu où vraiment, à Jérusalem, l'œuvre et la bonne nouvelle de l'Évangile a pu être proclamée et a pu faire des brèches et a pu se multiplier l'Église. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? On voit un autre type d'Église. Il y a une persécution qui se lève. Toute l'Église est dispersée. Et hop, quelques chapitres plus tard, dans les Actes, on voit un autre modèle qui se passe à Antioche. Et le modèle d'Antioche est tout à fait aussi pertinent. Et il était là pour aussi, je dirais, développer l'Église, pour la développer. Et qu'est-ce que c'était ce modèle-là? Dans l'Église d'Antioche, il y avait des apôtres, des prophètes, des enseignants, des docteurs. Et ils se réunissaient, ils étudiaient la parole, ils étaient ensemble, ils écoutaient la voix du Seigneur. Et ils formaient des disciples. Et c'est une autre forme d'église qui était à Antioche et qui a été aussi complètement pertinente et qui était parfaite. Et qu'est-ce qu'on voit se lever de ce modèle d'Antioche ? Un Paul, un Saul de Tarse qui arrive et qui reçoit le mandat pour aller proclamer la parole et proclamer l'évangile aux païens. Et là, pouf, encore un autre modèle d'église qui surgit avec quoi ? Paul qui part de ville en ville, hein, qui est envoyé, hein, ils jeûnèrent, ils prièrent et ils les envoyèrent avec Barnabas et ils passent de ville en ville et ils commencent bien sûr, des hommes, des femmes se convertissent. Il prie pour eux, il les forme pendant 6 mois. 6 mois, c'est court. Hier, on me disait, faut du temps quand même hein, pour écouter le Seigneur, s'engager, connaître vraiment sa volonté. Mais lui, c'était en 6 mois, pas prendre un ministère. Lui, en 6 mois, Paul, il choisit des personnes, il prie, il leur impose les mains, il leur communique une onction, hein, il leur donne une autorité. Et voilà. Et c'était une autre église avec des anciens. Et là, on commence à avoir des anciens qui apparaissent. Et voilà, une autre forme d'église qui apparaît. Ce n'est pas un cours magistral que je vous donne. Hein. C'est juste un exemple de justement comment l'église peut s'adapter aux circonstances, au temps. Et puis plus tard, comment on voit l'Europe, comment elle est évangélisée. Eh bien, il y a des gens comme Martin de Tours qui se lèvent. Déjà, un cœur pour adorer le Seigneur et aussi une main pour tendue vers les plus pauvres, hein, puisque c'est Martin de Tours, c'est celui qui a partagé son manteau, hein, puisque l'autre moitié ne lui appartenait pas. Il a donné la moitié qui lui appartenait. Il était soldat romain. Il donne la moitié de son manteau à un pauvre. Et puis bon. Et tout ce qu'il quitte après l'armée, et il se consacre vraiment à suivre le Seigneur. Et la France, qui est évangélisée par de tels hommes, est vraiment un cœur de cet homme pour développer des communautés. Hein, des communautés, c'était la préfiguration de communautés monastiques, de communautés qui cherchaient vraiment à adorer, à être vraiment dans la présence de Dieu, et puis après à être envoyés et libérés. Et toute l'Europe aussi est imprégné et comment dire, et percuté par ce modèle. Après, il y a eu Patrick en Irlande, hein, Saint Patrick aussi, hein, qui a libéré là aussi des hommes, envoyé, formé et envoyé des hommes avec une vision particulière, là aussi, de communauté. Et puis toutes ces communautés qui avaient non seulement un cœur pour adorer Dieu, mais aussi un cœur pour le servir concrètement, les travaux qu'ils faisaient, les premiers, les refuges, les lieux refuges, les travaux aussi des travaux d'assainissement. Ils ont fait des choses incroyables. Et toute l'Europe a été au bénéfice de ces communautés-là. C'est encore un autre modèle d'église. Donc voyez que notre pensée ne soit pas figée quand on pense église. C'est juste, c'est ça que j'ai envie de vous communiquer. C'est ce cœur pour vous dire, mais oui, il y a quelque chose qui est en mouvement dans le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui s'adapte tout le temps, qui évolue. Mais parce que c'est une réponse pertinente aux besoins. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'on peut voir ? La réforme venir. Et bon, il y a plein de choses à parler, mais un modèle qui m'a vraiment percuté, la communauté des frères moraves. Vous avez entendu parler de ça ? La persécution se lève en Moravie sur les frères. Hein, ils sont persécutés à cause de leur foi, à cause de la réforme qui vient dans leur vie. Et ils trouvent un protecteur, le comte Zizendorf, qui les accueille dans son domaine. Hein, et il va les accueillir. Et ces hommes, ces femmes vont vivre là, vont développer un modèle, là aussi, d'église. Ils cultivent les terres du comte, bien sûr, ils tirent une nourriture, bien sûr, de ce travail-là, mais en même temps, ils commencent une chaîne de prières qui va durer plus de 100 ans, plus d'un siècle. Une communauté comme ça, ils vont développer un cœur pour la prière et ils ne vont pas se contenter de ça, ils vont envoyer des missionnaires dans le monde entier, des hommes assez fous pour se faire esclaves, pour aller parler aux esclaves. En Amérique du Sud et dans d'autres lieux. C'est dingue, c'est fou. Et pour moi, c'est une forme d'église. Et ça répondait parfaitement, et c'était le propos de Dieu. Et ils ont écouté Dieu et ils se sont adaptés aux circonstances dans lesquelles ils traversaient, à la culture dans laquelle ils étaient, pour que finalement, quoi ? Mais Christ soit glorifié et Christ soit encore celui qui les guide, qui les conduise. Et dans tout domaine de leur vie, puisque cette communauté aussi comme je vous disais, elle s'autosuffisait, en tout cas, elle cultivait la terre et elle avait développé des moyens. Des formes d'église, on peut encore arriver jusqu'à pas longtemps à Sousa Street, le réveil pentecôtiste, ce lieu à Los Angeles au début du XXe siècle, ce lieu où tombe vraiment le Saint-Esprit, vraiment puissamment, quoi, et qui, dans ce lieu, de cette église, de ce lieu de réveil, va envoyer des missionnaires aussi dans le monde entier pour que le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit soient de nouveau communiqués à l'église qui en avait vraiment, vraiment, et à la communauté et le corps qui en avait vraiment besoin. Et c'est aussi une forme d'église. Seigneur, quel est ton modèle? Quel est le modèle d'église, Seigneur, pour cette France dans laquelle nous vivons, pour cette époque? On n'a pas choisi. Moi, je n'ai pas choisi d'être français. Mais j'y suis. Et j'ai eu du mal un peu. Parce qu'en plus, avec mes racines, ça manifestait, vous savez. Je suis corse, d'abord. Français, ensuite. Non, je suis français. Je suis français. C'est pas un hasard si je suis là. Et même si je viens de loin et que je viens habiter dans ce pays, c'est pas un hasard. Et oui, je suis important pour ce pays. Et oui, j'ai quelque chose à voir avec ce pays. Mon attitude peut faire la différence. Ma décision de servir Christ, ma décision de me mettre au service de Christ, au service de son Église, peut faire la différence et doit faire la différence parce que c'est le royaume de Dieu. Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite dans la France. Quel modèle d'Église, Seigneur, pour notre pays? Une piste que je vous donne. Vous savez qu'on a parlé donc de cette traduction du mot église. On a parlé de la traduction grecque qui prend le mot ecclésia, qui est traduite par ecclésia la plupart du temps. Donc ce lieu de gouvernement aux portes de la ville. Ça a été aussi koinonia. Mais en quelques occasions, vous allez être surpris. Et j'ai demandé à quelqu'un qui me le confirme vraiment. Et c'est Étienne Adjé qui me l'a confirmé. Mais le mot église peut être traduit aussi par ekoinomia. Économie. Waouh! Le mot église peut être traduit par économie. Alors bien sûr, là aussi, nos mentalités ont besoin de changer. Le mot économie, ce n'est pas juste la bourse, l'argent... les actions, les capitaux. Non, non. L'économie, c'est... Et il y a une économie du royaume. Et Dieu a des propos sur l'économie. Et quand on reprend l'Ancien Testament, ben vous allez voir que Dieu parle énormément sur l'argent, parle énormément sur l'économie. Il donne des préceptes. Il y a un chercheur israélien qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « L'économie selon la Bible ». Et il fait des relations, et les protestants, ils trouvent des relations d'ailleurs très fortes entre la culture juive et bien sûr les protestants, qui avaient quand même cette culture de la parole et de trouver des principes bibliques pour gérer leurs affaires. Et bien il a écrit ce bouquin super intéressant, où il voit qu'il y a des règles économiques que le Dieu a données dans ses commandements, dont vous lirez. Et en tout cas, peut-être aussi, Luc vous en a parlé, les lois sur le jubilé, sur plein de choses comme ça. Mais qui sont des sources de bénédiction pour les hommes, qui sont des sources de bénédiction pour l'humanité entière si elles sont appliquées, des règles justes d'économie. Et aujourd'hui, comme je vous disais, je travaille beaucoup dans le développement des œuvres sociales et il y a une espèce un mot qui décrit maintenant pour tout le développement de ces œuvres, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Alors moi, ça me fait doucement rigoler parce que l'économie, pour moi, elle doit être sociale et solidaire. S'il y a une économie qui est dévoyée, c'est parce qu'elle a été dévoyée par l'ennemi. Elle recherche le profit personnel, le profit de l'homme pour lui-même. On a bien compris, c'est le péché qui est au travail dans l'économie. Mais l'économie, selon le cœur de Dieu, c'est une économie qui est sociale et solidaire. C'est une économie qui est au service de l'homme. C'est une économie qui partage. C'est une économie qui est juste. C'est une économie qui pourvoit aux besoins de chacun. Ça, c'est une économie sociale et solidaire. C'est une économie selon le royaume de Dieu. Et cette économie-là, on l'entend Je vous assure, vous pouvez faire le tour dans des milieux qui sont très éloignés du nôtre, très éloignés du milieu évangélique, mais qui ont un souci de rechercher la justice des valeurs dans l'économie, et de retrouver une façon de vivre, un mode de vie qui est basé sur une économie saine, qui tient compte des ressources naturelles, qui tient compte de plein de critères, qui recherche la justice et le droit, où l'économie n'exploite pas l'homme. Et cette économie-là, elle est en train de devenir, écoutez-moi bien, un langage universel. Pour moi, mais pour d'autres aussi, j'espère que vous allez le comprendre, pour pouvoir parler de la justice de Dieu, pour pouvoir parler de la façon que Dieu a de pourvoir aux besoins, pour parler vraiment de ce qui est sur le cœur de Dieu, de comment il a créé la terre, comment il a créé les richesses, comment ça marche, comment les richesses peuvent se partager, comment elles peuvent se multiplier de façon exponentielle. Les hommes de cette génération sont en train de chercher Dieu à travers l'économie. Et c'est en train de bouleverser des nations. Ce qui se passe en Grèce, on peut se dire, oh, c'est les Grecs. Mais Dieu est à l'œuvre là-dedans. Dieu est à l'œuvre dans le dent. On entend un cri qui monte. Oui, il y a eu de l'injustice. Il y a eu de l'économie qui a été détournée. Oui, il y a eu des abus. Oui, il y a eu tout un système qui a été mis en place pour détourner l'argent, pour ne pas le faire fructifier, pour que ça serve à certaines castes et à certains. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un cri qui monte qui dit, mais voilà quoi, il y a une autre façon de faire. Alors il exprime avec leurs idées. Mais nous, on sait bien que derrière tout ça, il y a notre Seigneur qui veut que son royaume vienne sur cette terre. Et si l'économie était le moyen par lequel le Seigneur voulait interpeller les hommes et les femmes dans ces temps de la fin, si l'évangile devait se répandre, parce qu'au milieu de nous et dans l'Église, des œuvres vont se développer. Et quand je parle d'œuvres, je ne parle pas de bonnes œuvres. Ce n'est pas comme à Marseille, hein, la bonne mère. Non, vous ne connaissez pas ici. Non, vaut mieux pas. Mais les bonnes œuvres, ah, c'est les bonnes œuvres. Vous savez, la charité. La charité peut être très nocive. La charité peut être une religion. J'étais super étonné, je ne connaissais rien au monde du social. Quand nous avons créé cette épicerie solidaire au sein de notre assemblée, je ne connaissais rien au monde du social. Moi, j'étais un mécanicien automobile. Voilà. Et j'ai découvert le monde de la charité. J'ai découvert de la concurrence. J'ai découvert de la jalousie entre les différentes structures. Ah, ça, c'est mes pauvres. Ça, c'est mes pauvres. Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu viens dire? On ne fait pas bien notre boulot, non? Et puis nous, on a fait tout le temps comme ça. Pourquoi nous remettre en question? La charité peut être nocive, elle peut être une religion qui nous bouffe. Que Dieu nous préserve de cette religion-là. Aimer son prochain, c'est pas ça. C'est pas s'acquérir une bonne conscience, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas s'acheter une bonne conduite et un passe-droit. S'occuper de nos prochains, les aimer, c'est juste être comme Jésus est. C'est juste être comme Jésus est et le laisser être lui en nous. C'est tout. On n'a rien à gagner là-dedans pour nous-mêmes, mais tout est à gagner pour Christ. Donc j'ai découvert ça. J'ai découvert que ce monde, il n'était pas, c'était pas un monde de bisounours. Loin de là. Loin de là. Mais c'est le temps aujourd'hui pour qu'on fasse les choses autrement. C'est le temps aujourd'hui dans ce pays que cette entraide, que cette économie sociale, que ces œuvres soient des œuvres pertinentes, qu'elles puissent donner du travail. Quand j'ai commencé l'association, quand on a fondé l'association, je suis allé voir un peu les autres modèles qui existaient. Et souvent, les modèles associatifs que j'ai rencontrés, mais c'est des gens de bonne volonté, et il faut les aimer, et il ne faut pas les juger. Mais c'était Ah, mais une association, ça ne peut vivre que grâce aux subsides de l'État. Ça ne peut vivre que comme ça. L'association, ça doit perdre de l'argent. L'association, il ne faut surtout pas qu'elle fasse ami-ami avec les entreprises. Parce que les entreprises, c'est le diable. Les entreprises, c'est le diable. C'est eux qui font, c'est la source de tous les maux. C'est le diable. Et il ne faut pas pactiser avec eux. J'ai découvert des raisonnements absurdes. J'ai découvert des bénévoles, des gens dans les associations qui travaillaient depuis des années avec un super bon cœur, mais complètement usés, fatigués de porter les choses et qui avaient du mal à transmettre leur cœur, qui étaient pleins d'énergie au départ et puis qui étaient usés et fatigués. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça qui peut nous faire, qui peut faire la différence dans toutes les œuvres que nous pouvons développer. Oui, l'associatif est un modèle d'entreprise. Oui, l'associatif peut se développer sans subside extérieur de l'État. Oui, c'est important d'en avoir, mais oui, on peut s'en passer aussi. Oui, l'associatif peut créer de l'emploi, peut être une solution au-delà du simple fait de dépanner, d'apporter un service immédiat à quelqu'un. Là, c'était le propos, c'était de l'aide alimentaire et non alimentaire. Mais au-delà de ça, oui, les œuvres peuvent développer une vraie politique d'emploi, peuvent créer un climat, je dirais, où les hommes et les femmes qui y viennent se sentent accueillis, ils viennent y travailler, ils viennent donner de leur temps, se sentent valorisés et ne se sentent pas ni jugés, ni catalogués, ni rejetés pour ce qu'ils sont, mais où le peu qu'ils ont, ils peuvent le donner, le mettre à profit et que ça puisse donner du fruit. Oui, les œuvres, c'est ça. Changeons là aussi la disquette. Les œuvres dans l'Église, c'est pas juste l'association culturelle ou de bienfaisance. Les œuvres dans l'Église, c'est aussi des entreprises. Je parle aux jeunes, il y a des projets pleins d'espérance et de vie que le Seigneur veut vous communiquer et qui sont à vivre dans cette dimension-là. Et des projets d'entreprise, des projets de création d'activité, parce qu'il y a tellement de besoins quand on voit à l'extérieur. Il y a tellement de choses qui ont besoin d'un second souffle. Il y a tellement besoin de... Des fois, on se dit, ouais, bon, l'État s'en occupe. C'est les autres, il y a des associations, il y a des services spécialisés. Je peux vous assurer que là, s'il n'y a pas des chrétiens qui viennent amener la dimension du royaume, la dimension de Christ, toute la créativité, tout ce qu'il y a auprès du Père, toutes les solutions qui sont auprès de Dieu et qui doivent être communiquées, mais qui le fera? Qui le fera? C'est l'Église qui doit le faire. C'est vous, c'est moi, c'est nous qui devons nous lever dans cette société pour que des œuvres puissent naître. On a été longtemps dépossédés de cette dimension dans l'Église. Quand on regarde toutes les œuvres sociales dans ce pays, elles sont nées au 19e siècle, suite à la révolution industrielle, et il y avait d'énormes besoins. La condition ouvrière, on l'a oublié mais la condition ouvrière était catastrophique. Les enfants travaillaient à partir de 10 ans, 11 ans, il y avait des abominations. Les romans de Zola, je vous assure, ce n'est pas des romans, quoi. Ça reflète aussi une certaine réalité de l'époque. Et toutes les œuvres sociales qui sont nées à ce moment-là étaient pratiquement à 99%, étaient des œuvres d'inspiration chrétienne et prenaient naissance dans l'Église. C'était principalement l'Église catholique, mais il y avait aussi des réformés qui ont l'armée du... Enfin, plein de choses. Et puis, je ne sais pas, il y a eu quelque chose où l'Église s'est faite voler. Il y a eu comme une schizophrénie qui est venue sur les chrétiens en disant, mais bon... C'est à l'État de s'occuper de ces choses-là. Nous, l'Église, c'est ce qui est spirituel. Nous, l'Église, c'est de nous retrouver le dimanche, c'est de parler du Seigneur, de témoigner à nos voisins. Ça, c'est l'Église. Il y a une espèce de coupure, de séparation qui s'est faite. Je l'ai vu dans l'Église quand je suis arrivé. Je l'ai vu. Il y avait des choses qui étaient difficiles à croire. Il y avait un phénomène qui faisait que les gens se repliaient sur eux-mêmes, faisait que tout ce qui était du culte, du sacré, devait se vivre en communauté comme ça. Et surtout, il ne fallait pas que ça fasse trop de vagues sur l'extérieur, quoi. Et pourtant, Ecclésia, Economia, le Seigneur nous demande de briller à l'extérieur. Et on s'est fait voler. On est, je crois, dans un temps, il me semble, dans un temps où Dieu veut que nous rentrions, que nous soyons, on nous restitue le vrai mandat de l'Église, qui est bien sûr, et je l'ai répété, tout ce que nous vivons prend sa source dans la présence de Dieu, quand nous le louons, quand nous l'adorons, quand nous sommes des sacrificateurs devant lui. J'ai pas peur des mots. Nous sommes appelés à être une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Et le peuple de sacrificateurs aussi, il vient dans des temps spécifiques pour se réjouir dans la présence de Dieu, pour chercher sa présence, pour vivre encore, partager son cœur. Oui, oui et oui, il n'y a pas de séparation entre les choses. Mais de ça découle une action, une incarnation vers la société, une prise en compte des besoins de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, de tous les besoins. Et aujourd'hui, il y a des besoins économiques énormes. Il y a 10 ans de ça, je faisais déjà de l'entraide alimentaire. On pouvait dire les gens qu'on aidait, je suis dans un quartier difficile, donc on pouvait dire... Difficile. Non, il n'est pas difficile. Amen. Au contraire, c'est un quartier facile. Pardon, Seigneur. C'est un quartier où il y a une forte mixité, beaucoup d'étrangers, mais c'est un quartier super et qui, au contraire, c'est un lieu parfait pour proclamer la puissance de l'Évangile. Il n'est pas difficile. Il est juste un peu compliqué des fois au niveau culturel. C'est tout. Il faut connaître un peu les codes et tout. Mais c'est tout. J'ai perdu le fil. Ça arrive des fois. Je suis tellement passionné. Oui, voilà. Et le Seigneur nous a... Merci André. Et c'est vrai que le Seigneur a permis que notre église aménage au milieu de ce quartier-là et puisse de nouveau, je dirais, être en contact avec les besoins. Et des besoins, il y en a. Il y en a. Et les besoins ont évolué aussi. Donc comme je vous disais, voilà, on faisait de l'entraide déjà depuis une dizaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, on pouvait dire, le profil des personnes, c'est souvent des personnes d'origine étrangère, difficultés au niveau de la langue, au niveau de la formation, d'adaptation, manque de moyens, beaucoup de choses, des problématiques. Voilà, elles sont rien d'exceptionnel, mais elles sont ce qu'on retrouve dans beaucoup de quartiers. Mais je vous assure que 10 ans après, la crise est passée par là. Et les gens qui ont besoin d'aide, ce sont des gens comme vous et moi. C'est des gens qui ont un boulot. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie. C'est des gens qui font des études. C'est des gens qui sont en manque de pouvoir d'achat, quoi. Qui n'ont plus assez de revenus pour faire tourner, pour faire bouillir la marmite et pour faire face aux dépenses. La crise est passée par là. Et comment on répond à ces besoins? Il y a 10 ans, on pouvait se contenter aux personnes qu'on avait, à ce public-là, on leur faisait des colis. C'était une façon de leur répondre, une aide d'urgence. Ils ne choisissaient pas, on leur donnait en fonction de leur composition familiale et puis ça allait très bien comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça avec les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Il faut les considérer dans l'ensemble, dans la globalité de leurs problèmes. Et ils ont soif, ils ont besoin aussi d'un regard bienveillant sur la globalité de leur situation. Comment on répond à ça? Les choses changent, les choses évoluent. Les choses ne sont pas figées. Les choses qu'on faisait il y a 10 ans, elles ne sont plus d'actualité. Seigneur, comment tu réponds, toi, au jour d'aujourd'hui, à ces besoins? Comment? Quelle est ta réponse? Il y a une actualité dans le cœur de Dieu. Dieu n'est pas dépassé, il n'est pas figé. Ce n'est pas le vieillard à barbe blanche assis sur son trône et qui ne bouge pas. C'est un Dieu qui est au milieu de nous maintenant. C'est un Dieu qui est conscient. Qui est conscient des problématiques, qui est conscient des choses, qui les sait, qui les connaît et qui veut apporter une réponse. Il y a un avenir pour ce pays. Il y a un avenir pour ce pays. Pas évident quand on écoute les actualités, quand on écoute tout ce qui s'est passé en début d'année. On se dit, waouh, où on va ? Il y a quelque chose qui a retenu notre attention en Église depuis la rentrée. C'était une parole. C'est le Seigneur qui nous a rappelé simplement la parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous connaissez, hein, c'est la parabole du bon grain livré. Et puis c'est quoi? C'est en même temps que le bon grain a été semé, ben, il y a de l'ivraie qui pousse. On est un peu dans ce temps-là. Hein. Il y a quand même une accélération de choses quand même qui sont très dures. Et il y a des jugements, il y a vraiment des choses qui ne sont pas faciles. Mais en même temps, je peux vous assurer qu'il y a du bon grain qui pousse en même temps. Vous êtes le bon grain. Amen. Vous êtes le bon grain. Et la seule façon de combattre ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Oh non, n'arrachez pas le livret parce que vous allez tout arracher en même temps. Mais ce qu'il nous dit, et nous ce qu'on en a compris, c'est que le bon grain doit occuper la place. Quand il y a de la place libre, il faut l'occuper. Et il ne faut pas laisser livrer s'y mettre. Il y a encore de l'espace libre encore dans ce pays. Et il y a un avenir pour ce pays. Et c'est le bon grain qui doit pousser. C'est le bon grain. Je crois que si ces choses-là commencent un petit peu à nous interpeller, à nous faire réfléchir, et que vraiment on vient dans la présence de Dieu et qu'on dit, Seigneur, que vraiment nos vies soit réaligné avec tes projets. On ne pourra pas s'en sortir autrement, je peux vous le dire. Et l'Église ne pourra pas manifester le royaume de Dieu autrement qu'en se réalignant avec les projets de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous individuellement, qu'il a pour l'Église, l'Église locale, l'Église avec un grand E aussi, et qu'il a pour cette nation. Donc je vais vous inviter vraiment à vous lever. Et on va prier parce que il me semble vraiment que le Seigneur nous demande ce réalignement. Et c'est marrant parce qu'on a des chants qui ont été pris, aller vraiment dans ce sens-là, comme un appel à revenir au cœur, à revenir vraiment auprès du Seigneur, écouter vraiment ce qu'il a à dire pour nos vies, à se réaligner. Le Seigneur a des projets pour notre pays, le Seigneur a des projets pour vos vies. Et il est temps d'écouter ce qu'il a à dire pour nos vies. À le rechercher vraiment. Seigneur, venons humblement à toi. Bien avant que nous te connaissions, toi tu nous connaissais. Et alors que nous étions déjà morts et séparés de toi, tu es venu te manifester à nous. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est pas quelque chose d'impossible que tu nous demandes. Ce que tu nous demandes simplement, c'est de marcher dans ta volonté, c'est d'être réaligné avec tes projets, et être réaligné avec ce que toi tu dis sur nous. Et ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Si tu as été capable de nous sauver alors que nous étions morts, alors que nous te considérions comme rien du tout, tu es venu nous chercher là où nous étions. Tu viens nous chercher ce matin là où nous en sommes, dans nos situations, dans nos questionnements. Là où on en est exactement dans notre cheminement avec toi. Tu viens nous chercher, Seigneur. Tu viens nous chercher parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es cette figure d'autorité que nous reconnaissons. Et tu es capable, Seigneur, de nous montrer ta volonté et de faire en sorte que nous la fassions. Seigneur, il n'y a rien qui est au-dessus de nos forces si nous croyons, Seigneur, que tu es la tête, que tu es le chef, que tu es celui de qui nous dépendons et de qui toute vie dépend sur cette terre. Tu as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Tu es le chef de toutes choses et nous croyons que faire ta volonté, ce n'est pas un exercice impossible, ce n'est pas un exercice nébuleux, ce n'est pas un exercice de haute voltige. n'est pas quelque chose où on risque de se casser la gueule. Je ne crois pas à cela, Seigneur. Mais je crois que dans ta bonté, dans ta grâce, tu viens communiquer à tes enfants et renouveler vraiment ton esprit sur eux, afin qu'ils comprennent quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ton amour pour eux et là où tu veux les amener, Seigneur, pour être sel et lumière dans cette nation de France. Seigneur, ce n'est pas juste à une remise en question que tu nous appelles. C'est simplement un réalignement. Seigneur, prends nos vies, prends nos cœurs. Seigneur, amène-nous, Seigneur, là où tu veux nous amener. Seigneur, que ton royaume devienne notre préoccupation. Pas nos propres vies, pas nos propres... Ouais, non, ton royaume. C'est ton royaume que nous voulons voir au milieu de nous. Et tu as choisi dans ta grâce, dans ta bonté, de te servir de nous. Et je te remercie pour chacun et chacune de se présente aujourd'hui qui se rendent disponibles pour que ton royaume vienne. Je te remercie pour la part qui est la leur. Je te remercie pour les paroles que tu leur as déjà données. Il y a des paroles que le Seigneur vous a déjà données. Il y a des rêves qui sont au milieu de vous. Il y a des choses que le Seigneur vous a données déjà. Quand j'étais enfant, j'ai réalisé que j'avais été préparé tout jeune pour ces œuvres d'entraide dans lesquelles le Seigneur m'a amené des années et des années plus tard. J'étais à l'église, j'étais petit, je devais avoir 9 ou 10 ans, j'étais allé au catéchisme. Et on m'avait parlé de la charité, on m'avait parlé du don gratuit. Et je me rappellerai toujours un jour, je suis parti à la messe, j'avais pris toutes les économies que j'avais. À l'époque, c'était énorme, je crois que j'avais 50 francs, mais c'était il y a plus de 40 ans de ça. Et j'avais tout donné au gars qui faisait la manche à la sortie de l'église. Et il y avait une joie qui était venue dans mon cœur. Il y avait une joie qui était venue dans mon cœur, même si quand je suis rentré à la maison, je me suis fait engueuler par mes parents. Mais il y avait une joie dans mon cœur, parce que le Seigneur avait déjà placé en moi, tout petit, il avait placé en moi déjà des projets, et j'avais obéi, sans réfléchir, sans calculer. Il y a des projets, il y a des rêves dans vos vies, il y a des choses, le Seigneur, il vous en a déjà parlé. Que ça soit réactivé maintenant au nom de Jésus, que ça soit ressuscité maintenant au nom de Jésus, et que vous puissiez rentrer dans ces choses-là. Ne dites pas, oh c'est loin, ça paraît compliqué. Non, c'est pas compliqué. Simplement, examinez ça devant le Seigneur et dites, Seigneur, que ce que tu as déposé en moi, de toute éternité, soit réactivé par ton Saint-Esprit, parce que tu m'as racheté, parce que tu m'as séparé du péché, parce que tu m'as séparé de la mort, parce que tu m'as séparé de la vaine façon de vivre, hérité de ce monde, parce que tu m'as mis à part, on a chanté, parce que tu m'as mis à part, parce que tu es saint, je serai saint. Alors, j'ai reçu la capacité de rentrer dans tes projets, de rentrer dans ce que tu as prévu pour ma vie, afin que je sois sel et lumière, afin que je sois celui et celle qui va amener de la vie, du réconfort et une solution à ceux qui en ont le plus besoin. Alléluia. Alléluia. Il y a des rêves dans nos cœurs. Ne les laissons pas tomber. Il y a des projets que le Seigneur a inscrits en vous, qu'ils soient ressuscités au nom de Jésus. J'insiste là-dessus. J'insiste. Des fois, on se dit, oh là là, il faut que j'aille chercher une idée incroyable. Non, le Seigneur vous a déjà parlé. Que ça soit réactivé maintenant. Au nom de Jésus. Le Seigneur parle sur cette assemblée aussi. Le Seigneur a parlé sur cette assemblée. Et il y a des paroles qui sont réactivées aussi. C'est le temps de rentrer dans des choses que vous avez peut-être reçues il y a 20 ans. Et nous proclamons que sur cette année 2015, c'est le temps de la restitution. C'est le temps où l'Église va briller dans cette ville, dans la région et sur cette région parisienne. C'est le temps, 2015, c'est une année de restitution. Et nous disons, Seigneur, ensemble, nous disons, 2015, Seigneur, c'est une année, une nouvelle saison où nous rentrons, où des portes sont ouvertes, où des choses de nouveau sont de nouveau possibles, et où nous rentrons dans des paroles que tu as données il y a plus de 20 ans. Nous le croyons, nous le confessons. Et nous prions, Seigneur, pour que d'un même cœur, dans cette assemblée, il y ait un même cœur, une même pensée. Tu unis les uns et les autres, Seigneur, pour rentrer dans cette nouvelle saison au nom de Jésus. Soyez bénis, fortifiés en tant qu'Église. Recevez encore le mandat. Soyez réactivés dans le mandat que le Seigneur a pour votre Église dans cette commune et dans cette région parisienne. parce qu'on saura où est Auberge en Ville, dans cette région parisienne, parce que vous allez éclairer, parce que vous êtes de là, vont partir des ouvriers dans la moisson, parce que de là, et quand je dis dans la moisson, c'est peut-être pas des milliers de kilomètres, mais c'est peut-être à quelques kilomètres de là, et qu'il va y avoir un temps de multiplication, qu'il va y avoir un temps de développement des œuvres pour les jeunes et les moins jeunes, pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis longtemps et ceux qui viennent de le rencontrer. Soyez sel et lumière, que vos vies soient, que nos vies soient pertinentes et qu'elles soient alignées avec les plans de Dieu. Amen. Amen.